en coloc. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, de l'observation des astres à l'Antiquité, aux satellites et autres paraboles du XXIe siècle, l'astronomie et plus particulièrement l'astrophysique ont réalisé de très nombreux progrès. Pour avancer toujours plus loin dans les connaissances, la communauté européenne s'est réunie en 2005 pour créer Astronet. Astronet regroupe plus de 20 agences européennes de recherche dont l'objectif principal est de renforcer sa position de leader mondial que l'astronomie européenne a atteint au début du XXIe siècle. Ce groupe européen d'agences de recherche recouvre l'astrophysique des photons, des neutrinos, des ondes gravitationnelles. Astronet se penche également sur les moyens technologiques qui permettront d'atteindre ces nouvelles connaissances. Guy Monnet, astrophysicien, ancien directeur des observatoires de Lyon, Marseille et Hawaï, a sélectionné pour nous deux domaines où les recherches restent très actives, la recette d'un univers réussi ainsi que les mystérieux trous noirs. Cette conférence ouverte au public était organisée par le Bureau des longitudes en janvier 2008 à l'Institut de France. Pour comprendre les explications de Guy Monnet, nous vous invitons à télécharger le support visuel qui accompagne le texte de présentation de l'émission sur le site de Canal Académie.
Bonjour mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues. Bon, c'est un plaisir de vous recevoir donc aujourd'hui. Je commencerai par vous adresser au nom du Bureau des longitudes tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle année 2008 et j'espère tout un ensemble de conférences qui seront susceptibles de vous intéresser. Aujourd'hui, je dois vous présenter M. Guy Monnet, qui est astrophysicien. C'est quelqu'un qui a fait de puissantes études déjà à l'École polytechnique. Puis ensuite, il a été directeur de l'Observatoire de Marseille, directeur de l'Observatoire de Lyon, directeur d'Hawaï pendant 6 ans, en plein Pacifique Nord, mais au milieu, au Pacifique quand même, c'est ça, oui. Ce qu'on appelle les astronomes de 3,60 m. C'était donc toute notre collaboration française. Et puis ensuite, M. Guy Monnet a été à l'ESO, où il a défendu et fait la promotion de nombreux projets, y compris les grands projets des grands futurs télescopes. Je ne sais pas si tu nous entends un tout petit peu et tout. On ne peut pas parler de tout non plus. Et puis, donc maintenant, M. Guy Monnet donc, va nous entretenenir justement sur notre objectif de sonder toujours un peu plus loin l'univers et de mieux comprendre cet univers, eh bien, nous amène à concevoir des nouvelles technologies. Et puis, on essaye de se projeter en avant. Alors, Guy, si tu peux nous présenter ces choses. Et merci beaucoup par avance. Alors, je signale qu'ensemble, nous nous connaissons depuis un certain nombre d'années, puisqu'on avait fait ensemble un compte-rendu, un rapport préliminaire pour ce qu'on appelle le VLT, qui est installé aujourd'hui au Chili. Quoi. Voilà, on avait donc eu l'occasion de travailler, qui a été présenté aussi d'ailleurs à l'Académie des sciences à l'époque. C'était en 86.
Oui. Bon, ben, donc, tous mes voeux aussi. C'est un redoutable honneur que de faire une conférence de presse ici. Alors, donc, en fait, ce que je vais vous présenter, ce dont je vais vous parler, est à l'intérieur d'un contexte qui est la fabrication d'un plan de route de l'astrophysique de 20 ans pour la communauté européenne astrophysique. Alors ça, c'est quelque chose qui est en train d'être fait, qui est en train d'être fait sous l'égide d'Astronet. Astronet, c'est un programme de la Commission européenne. Et le travail est organisé par 20 agences qui s'occupent de l'astronomie dans quelque chose comme 16 pays européens. Et ce programme est en fait dirigé par le CNRS. Donc c'est un plan de route qui est en fabrication actuellement, qui couvre toute l'astrophysique, ça veut dire l'astrophysique des photons, mais aussi l'astrophysique des neutrinos, des ondes gravitationnelles, etc., des astroparticules d'une façon générale. Et il y a deux volets. Le premier volet, comme dans un plan de métro, on veut savoir où on veut aller. Donc on a une vision scientifique. Ça, c'est sorti en septembre de cette année. Le résultat du travail par une bonne centaine d'astronomes est présenté à la communauté de façon large à Poitiers en février dernier et ensuite amendé et donc publié. Et puis actuellement, par la même méthode, c'est-à-dire avec un certain nombre de panels, un certain nombre de... Ça peut être quoi un panel? Un certain nombre de petits groupes pour définir les moyens technologiques qui permettront de les atteindre. Alors évidemment, ça n'est pas fait dans le vide. Il y a en astronomie, comme dans beaucoup de domaines, une combinaison entre une coopération internationale et une compétition internationale. Ça s'appelle en général une coopétition. Et c'est dans ce contexte que donc ce plan de route est en train de se faire. Et vous avez ici flashé rapidement quelques-uns des grands moyens qui existent actuellement au sol, quelques-uns des grands moyens qui existent actuellement dans l'espace en astrophysique. Et donc, ce que je vais faire, essayer rapidement, c'est de sélectionner trois domaines. Il se peut que je n'arrive pas à la fin. Dans ce cas-là, les exoplanètes passeront à la trappe. Quelques domaines de pointe et essayer de vous expliquer très rapidement où on en est actuellement. Ça ne sera pas historique du tout. Il faudrait beaucoup plus de temps. Et aussi, qu'est-ce qu'on espère maintenant comme angle d'attaque et angle de moyen pour arriver à progresser. Alors, je commence par un qui n'est pas ultra simple. C'est la façon de... quelle est la recette de cuisine pour fabriquer un univers, en l'occurrence le nôtre. Alors, la scène, elle est là, elle est dans le temps. Essentiellement parce que, comme vous savez tous, quand on a un télescope ici qui regarde, il regarde dans le passé. Donc, en fait, il regarde tout ça, une scène cosmique. Alors, dans les idées actuelles, ça commence par des fluctuations quantiques qu'on ne voit pas. Une période d'inflation, quand l'univers avait quelque chose comme moins 10 puissance, moins 35 secondes, et où il s'est étendu d'un coup de la taille d'un noyau atomique à la distance d'ici à la plus proche étoile en quelque chose comme 10 puissance moins 20 secondes, assez curieux. Et puis après, ben, il se passe une période qu'on ne voit pas là, de 3 à 4 minutes, où les premiers éléments lourds se forment. Enfin, ce n'est pas des éléments très lourds, hein. C'est à partir de l'hydrogène, l'hélium, le lithium, le deutérium et un certain nombre de corps de ce genre. Et puis après, il se passe un temps un peu plus long, 300 000 ans, où on voit une première lumière. Je vais en parler un peu plus longuement. Et puis après cette première, ce flash ayant apparu, l'univers, on est dans un âge sombre. Un âge sombre, ça veut dire qu'actuellement, on n'a pas réussi à avoir la sensibilité pour voir quelque chose. Et puis, sous l'influence de la gravité, ces fluctuations quantiques qui avaient été amplifiées ici, qui sont encore amplifiées, donnent naissance progressivement à cet univers extrêmement structuré, fait de galaxies qui se rassemblent elles-mêmes en amas, qui se rassemblent elles-mêmes en superamas que l'on voit actuellement. Alors, il se trouve qu'il y a eu une période de l'univers qui est excessivement simple. C'est la période qui part de la période où l'univers a de l'ordre d'une seconde jusqu'à la période où l'univers a 300 000 ans. Au tout début, c'est un peu compliqué, c'est l'intérieur d'une bombage, en gros, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'éléments se forment par fusion. Mais au bout de 4 minutes, c'est fini, et ça devient essentiellement, d'un point de vue physique, l'intérieur d'un tube à néon. Alors ça, c'est excessivement simple, et en fait, la physique de cet objet, c'est une physique qui aurait pu être faite à la fin du 19e siècle. Donc c'est extrêmement simple, on a essentiellement donc un plasma, comme dans un tube à néon, on a des atomes d'hydrogène ici, essentiellement de l'hydrogène, un peu d'autres, des électrons, et puis il y a du rayonnement qui est essentiellement piégé entre ces différents composants. Et puis, j'ai oublié un point extrêmement important dans la précédente. Le cadre conceptuel dans lequel cet univers, on le considère, c'est le cadre qui a été fixé par Einstein vers 1920, 1925, je crois. C'est-à-dire que l'univers se développe avec l'espace qui s'étire. Donc l'espace change de métrique, il s'étire et il entraîne avec lui la matière et l'énergie. E égale mc2, d'ailleurs, la matière c'est de l'énergie et l'énergie c'est de la matière. Donc ça n'est pas une explosion, bien sûr, ça n'est pas une explosion, c'est-à-dire de la matière qui se propage dans un espace qui existe déjà, c'est un espace qui change de taille et qui entraîne la matière avec lui. Donc cet univers étant en expansion, la matrice d'espace étant en expansion, aux alentours de l'âge 300 000, la température chute en dessous d'une valeur qui est de l'ordre de 3200 degrés, et à ce moment-là, brutalement, d'ailleurs, très rapidement, l'univers n'est plus formé avec des ions. Les atomes se recombinent, donc on est en présence d'hydrogène, d'hélium, et le rayonnement qui existait à ce moment-là est brutalement libéré. Et ce qui est formidable, c'est qu'on peut l'observer maintenant. Donc, quand cette prédiction a été faite, c'était, si je me souviens bien, déjà le cas c'était le cas dans les années 50. Quand cette prédiction a été faite, elle a eu l'avantage de faire une prédiction qui était extrêmement nette. Le rayonnement en question doit être isotrope, c'est-à-dire qu'il doit y avoir, où que l'on regarde, le rayonnement doit être à la même intensité, avec le même spectre. Et son spectre, justement, doit suivre une loi universelle qui est celle d'un corps noir. La connaissance de cette époque ne permet pas de fixer la température que l'on verra actuellement. Un corps noir à une température, c'est la seule chose qu'il est. Toutes ses propriétés sont déterminées, y compris la quantité d'énergie émise, sont déterminées par le fait qu'il a une température. Donc cette température est un paramètre libre, c'est le seul. Alors, ce rayonnement, soit isotrope, a été mesuré, a été confirmé dès sa première observation en ondes radio. Mais je vous projette ici le résultat du satellite Kobe, parce que c'est le meilleur qui a été obtenu. Et donc, on voit un rayonnement. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la totalité du ciel. 360 degrés de ciel ici. 360 degrés. Toute cette partie-là qui est noire, c'est une partie en fait où se trouve notre galaxie et où par conséquent les observations sont moins précises parce que le rayonnement en question est pollué par des émissions diverses venant de notre galaxie. Alors en fait, cette carte qui est une carte d'émission, d'intensité, n'est pas entièrement d'une même couleur et ça c'est dû au fait que nous nous déplaçons par rapport à cette émission. Ce déplacement fait un effet Doppler et par conséquent, il y a une partie qui est bleue, c'est la partie dont on se rapproche, il y a une partie qui est rouge, c'est la partie dont on s'éloigne. Alors c'est faible, ça fait un effet de 0,2% et quand on l'enlève, les fluctuations sont inférieures à 1 pour 10 000. La prédiction d'isotropie a été confirmée de façon absolument extraordinaire. Le spectre, c'est encore plus spectaculaire. Voilà le spectre. Alors le spectre, les mesures de Kobe, alors c'est des mesures, donc vous avez une intensité ici, qui est une intensité absolue, dans une unité baroque qui n'a aucune importance, et vous avez une fréquence qui n'est pas exprimée en microns, mais qui est exprimée en centimètres moins 1, à partir du moment où le maximum se situe aux alentours de 1 mm de longueur d'onde ici. Il y a un seul paramètre libre pour passer par tous ces petits carrés sont des carrés d'erreur. Et donc, vous voyez la précision absolument spectaculaire ici. Une précision de 1% en absolu et de 1 pour 1000 en relatif. Donc, c'était un résultat de 1989. Alors, le problème, c'est qu'à cette époque-là, et je me souviens qu'à cette époque-là, il y a eu des gens assez courageux pour l'écrire, c'est que l'uniformité trouvée était de 1 pour 10 000, mais qu'il y aurait un très très gros problème s'il s'avérait qu'en continuant avec des mesures de plus en plus précises, cette uniformité continuait. En effet, si une physique finalement très simple, qui est ce qu'on appelle la présence spontanée d'ondes entre la gravité, c'est-à-dire que les particules ont tendance à tomber. Mais quand ils tombent, la pression de radiation augmente, c'est une pression de radiation ici, et par conséquent, on a des oscillations, un petit peu d'ailleurs comme on a des oscillations dans un tube à néon. Donc, la théorie montrait que ces oscillations devaient être de l'ordre de 1 pour 100 000, et en plus, on commençait à s'apercevoir que si on n'avait pas ces différences de densité de l'ordre de 1 pour 100 000, eh bien, les galaxies ne se seraient jamais formées. C'est en effet à partir de ces germes qu'en attirant d'autres matières autour de soi, les galaxies ont pu se former dans un univers par ailleurs en expansion. Donc il était urgent qu'en faisant mieux, on trouve environ 1 pour 100 000, ou alors ça prouvait simplement que tout ça était complètement faux. La première très belle mesure est due à une mesure en ballon qui a été lancée à partir du continent Antarctique, Boomerang. Et la plus belle carte a été obtenue par le satellite WMAP, qui est encore d'ailleurs à 1,5 million de kilomètres de la Terre, au point L2, et a donné cette carte avec des fluctuations moyennes qui sont effectivement de l'ordre de 1 pour 100 000. Donc c'est absolument spectaculaire. Et donc, vous voyez des zones un peu plus denses ici. Ici, on arrive à une fluctuation de 2 fois, 3 fois même pour les plus intenses sur 100 000 et inversement des zones qui sont moins denses, plus froides. Donc, une nouvelle confirmation absolument spectaculaire. Alors, le premier problème qu'on se pose quand on se dit qu'on est dans un univers où la forme est déterminée par une métrique, la métrique de l'espace, c'est de savoir comment on s'est posé la question sur la Terre. Est-ce que l'univers est sphérique? Sphérique, ça veut dire que la gravité l'emporte sur l'expansion. Ou est-ce que, inversement, l'univers est hyperbolique? C'est-à-dire que l'expansion l'emporte sur la gravité, c'est l'inverse. Ou alors, est-ce qu'on est juste au milieu? C'est-à-dire que l'expansion et la gravité se balancent. Alors tout ça, ça dépend d'un seul paramètre, c'est la densité moyenne. Alors évidemment, c'est une densité moyenne uniquement. À partir du moment où la matière, en tout cas, on la voit sous la forme d'amas de galaxies, ça n'est pas uniforme, mais à très grande échelle, ça l'est très nettement. Il y a donc une densité critique, à peu près 3 atomes d'hydrogène par mètre cube. C'est pas très précis d'ailleurs que ça doit être, parce que ça dépend de la taille exacte de l'univers, qui n'est pas connue avec une très grande précision, par contre. Ce qui veut dire aussi que c'est sûrement pas en mesurant la quantité de matière, la densité de matière dans l'univers, qu'on saura s'il est sphérique, plat ou hyperbolique. En fait, il faut une mesure géométrique. Pour faire une mesure géométrique, ben, l'idéal, c'est d'avoir un quadrillage. Donc, on a très loin, là, dans le passé, un quadrillage, admettons. Si on le voit avec un univers sphérique, ça veut dire qu'on regarde à travers une loupe. Et le quadrillage qu'on voit, ben, il est plus gros. C'est ce qu'on appelle une loupe, d'ailleurs, en général. Si on a une densité qui est inférieure à la densité critique, la loupe en question, ça devient une lentille divergente. C'est les miroirs dans les centre où on prend des vêtements en solde. Si c'est une fenêtre, on est exactement égal à la densité critique. On a simplement une fenêtre et le quadrillage est plan. Alors, au miracle, les mesures faites avec le satellite Boomerang sont un quadrillage. Alors, vous allez me dire évidemment que ce n'est pas un quadrillage qui est régulier, mais ça n'a pas une très très grande importance. En moyenne, la distance caractéristique moyenne entre un plus et un moins, un trait rouge et un trait bleu, si vous voulez, doit être égale à une valeur fixe. Donc c'est réellement l'équivalent d'un quadrillage. Cette valeur peut être calculée facilement avec en fait à nouveau une physique qui ne dépend que de la physique du 19e siècle. Et le résultat, c'est que la distance moyenne doit être de 0,9 degrés. Et elle dépend très très peu des paramètres inconnus comme la taille exacte de l'univers. Donc, en fait, ça devient simple. On a un quadrillage de fond qui fait 0,9 degrés entre les trames. Si l'univers tout entier est devant, il est plat, eh bien, on verra quelque chose qui aura 0,9 degré de distance caractéristique ici. S'il est sphérique, on trouvera plus que 0,9 degré, c'est agrandi. S'il est hyperbolique, on trouvera moins de 0,9 degré, il est rapetissé. Et les résultats sur Boomerang, eh bien, sont clairs. La distance caractéristique est égale à 0,9 degré à 2% près, et par conséquent, notre univers est plat. Et je me rappelle d'ailleurs avoir vu un article journal, quand c'est paru, qui disait, un petit peu faussement d'ailleurs, que Christophe Colomb avait montré que la Terre était sphérique, mais que les astronomes avaient eu le dernier mot en montrant que l'univers était plat. Alors, en fait, on peut faire plus. Alors, ça devient un tout petit peu plus compliqué, mais ça va vite être fait. Alors, ici, on a en fait donc une échelle angulaire, 0,2 degrés, 0,5 degrés, 2 degrés, 90 degrés. Et puis ici, on met les fluctuations dans une unité qui n'a aucune importance. Les fluctuations de température qui ont été mesurées par WMAP. Donc, ces fluctuations ont un premier pic à 0,9 degrés. C'est pour ça qu'on sait que la densité totale de matière-énergie dans l'univers est égale à la densité critique, avec une très grande précision. Mais on a un autre phénomène qui est que les baryons, c'est-à-dire la matière ordinaire, la matière dont nous sommes faits, dont la Terre est faite, dont tout ce que nous voyons est fait d'ailleurs, a tendance à tomber dans les puits, c'est-à-dire les endroits où on a une compression. Alors ici, on a un pic de compression, et puis après, on a un second pic ici, donc qui se situe vers 0,3 degrés, qui a donc été bien détecté par le satellite et qui est un pic de l'opposé d'une compression, une expansion, un pic d'expansion. Alors comme les baryons se rassemblent et amplifient les pics de compression et inversement désamplifient les pics de dépression, cette distance-là, ce rapport ici, est en fait extrêmement sensible à la quantité totale de matière ordinaire, de baryons. Et le résultat est 0,04, c'est-à-dire que 4% de la masse de l'univers est composée avec de la matière. Résultat a priori absolument invraisemblable, sauf que ça faisait c'est déjà un résultat qui a commencé à être connu aux environs de 1935, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que l'univers contenait des quantités énormes de matière que l'on n'arrivait pas à détecter. Bien sûr, ça ne prouvait pas que cette matière pouvait être des baryons qui seraient cachés. Mais à partir de l'analyse des abondances, donc il y a un certain nombre de corps, le deutérium, le lithium, le béryllium, qui se sont formés dans les 4 premières minutes, donc toute une alchimie nucléaire. C'est pas de la physique extraordinairement compliquée. C'est un peu comme l'intérieur d'une bombe H. Donc, il y a eu des raisons extrêmement pressantes de comprendre ce qui se passe dans ce cadre. Et le résultat connu bien avant celui-là, c'était que ces abondances indiquaient que la quantité de baryon était égale à peu près à 4% de la densité critique. Donc, en fait, ça a confirmé ce résultat par une méthode absolument différente. Mais simplement une confirmation. Alors, ça veut dire que dans notre recette de cuisine pour un univers, il ne suffit pas d'avoir de la matière, puisque ça fait 4%. Il faut mettre pas mal de matière noire. Alors, cette matière noire, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui était bien connu bien longtemps avant. Mais ce qui est remarquable, c'est que depuis une découverte française, d'ailleurs, datant de 25 ans, par Bernard Faure et Yannick Mélier, eh bien, la matière noire, on peut la voir. Enfin, presque. On peut voir l'effet qu'elle fait. Mais on peut le voir visuellement. Donc, vous avez ici une image d'un amas de galaxies. Donc là, vous avez plusieurs milliers de galaxies qui sont rassemblées dans un amas. Donc, vous voyez tous ces objets ici. Et puis derrière, derrière, il y a toute la partie plus ancienne de l'univers. Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup de galaxies qui sont vues à travers cet amas. Cet amas est extrêmement dense, donc en fait, c'est une loupe. C'est une loupe gravitationnelle. Résultat, les images de ces galaxies sont en fait transformées en caustiques. Donc vous avez des images qui font des petits cercles, là, des arcs de cercles qui sont centrés sur la main. Et on peut remonter directement à la masse totale à partir simplement de la courbure et, ce qui est un peu plus difficile, du calcul, de la mesure de la distance de ces petits arcs. Résultat, un amas comme celui-là contient 50, 100 fois plus de masse que les galaxies elles-mêmes n'en procurent et qui donc est composé d'une autre matière qu'on appelle une matière noire, simplement parce qu'on ne la voit pas, et qui est froide. Alors froide, c'est pas au sens de la température avec un thermomètre. Froide, c'est au sens qu'elle ne peut pas être composée de particules extrêmement légères comme des neutrinos, parce que en fait, en analysant la distribution de masse à partir de ces petits arcs, on s'aperçoit que c'est une masse qui est à peu près aussi concentrée que les galaxies. C'est-à-dire qu'elle est fortement, il y a nettement plus de matière noire ici que là ou que là. Et si c'était composé de neutrinos, par exemple, qui sont des particules extraordinairement légères, ça serait une matière, une distribution qui serait beaucoup, beaucoup plus grande. Donc, on sait astrophysiquement qu'il existe une matière noire, qu'elle est froide. Enfin, elle est froide pour un physicien nucléaire, ça veut dire qu'elle est assez dense, assez faite de particules qui sont assez lourdes, ce qui veut dire qu'elle n'est pas facile à former au laboratoire. Et puis, ma foi, c'est à peu près tout ce que l'astrophysique approche. Alors, ô horreur, là, ça va être un peu compliqué, j'aurais probablement pas le temps, mais on s'est aperçu qu'il fallait aussi autre chose. Il fallait aussi autre chose qu'on appelle une énergie noire. Et ça vient du point suivant qui est présenté ici. C'est que si on regarde un certain type de supernovae. Les supernovae de type 1A. Alors, les supernovae, c'est des étoiles qui explosent. Les supernovae de type 1A ont l'avantage d'être des objets relativement simples et uniformes. Vous avez une naine blanche, une étoile qui est arrivée en fin de vie, entre guillemets. Seulement, voilà, elle n'est pas toute seule. Elle a une autre étoile autour d'elle, proche, et l'autre étoile lui envoie de la masse. Donc, cette naine blanche s'entoure d'hydrogène, essentiellement. Donc, il y a de l'hydrogène qui s'empile. Et puis, ça dure un certain temps, mais au bout d'un moment, simplement, la masse devient trop grande, dépasse la limite où la gravité l'emporte sur n'importe quoi. Donc, la couche qui est autour s'effondre. Et il y a à ce moment-là une explosion thermonucléaire qui a l'immense avantage d'envoyer la même quantité d'énergie, quelle que soit la supernova. Une constante de la nature, en gros. Alors tout ça, c'est très en gros. Il y a malheureusement, je dois bien dire, des corrections de cuisine absolument épouvantables. Mais enfin, en gros, c'est quelque chose qui est constant. C'est-à-dire que si on prend ces objets, si on regarde leur luminosité, qui est là, dans une unité d'astronome baroque, et puis si on met en mettant le décalage spectral ici, eh bien, on obtient une courbe. On obtient une courbe qui est ici. Alors ici, en insert, vous voyez avec des magnitudes ce que donc la première courbe obtenue en fait était. Et ici, c'est la courbe qu'on obtiendrait dans un univers où il y aurait une accélération absolument pure. Ici, dans un univers où il y aurait une décélération absolument pure. Et puis donc ici, on est quelque part au milieu. Et ce quelque part au milieu nous donne le résultat assez remarquable que la recette de cuisine, c'est en gros 30% de matière noire et 70% d'énergie noire. Dans une interprétation immédiate, alors il faut que je m'arrête là. Bon, l'idée que la métrique même de l'univers puisse avoir une énergie est une idée qui est en fait très ancienne. En fait, elle date de l'idée d'Einstein de faire une constante cosmologique. Elle a été remise au goût du jour par Sakharov, qui a montré qu'en fait, si le vide a une énergie, je rappelle qu'en physique, le vide, ça n'est pas le néant. Le néant n'aurait pas d'énergie, enfin, je suppose, tout au moins. Mais le vide peut bel et bien avoir une énergie. Si vous voulez, dans l'idée où on regarde l'espace comme un maillage, cette énergie, c'est une énergie de tension. Donc, si on a une telle énergie, elle se comporte de cette façon-là, elle se comporte en accélérant l'expansion de l'univers. Et effectivement, ce qu'on observe, c'est bien une accélération, c'est-à-dire qu'à l'époque actuelle, notre univers est en expansion accélérée. Ce qui demande quelque chose, parce qu'on est dans un univers où il y a une gravité, la gravité est toujours attractive, par conséquent, l'expansion par elle-même ne peut que diminuer, sauf si on a une énergie particulière qui est stockée dans la matrice de l'espace elle-même. Donc, pas mal de matière noire, une majorité d'énergie noire. Et alors, ce qui est remarquable, c'est qu'à partir de là, on reproduit de nombreuses observations dont la structure à grande échelle, donc je vais vous dire un mot. Alors, cette structure à grande échelle, alors, ça part de la façon suivante. Un groupe de laboratoires en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux États-Unis s'est embarqué dans une simulation de ce qui se passe dans l'évolution des grandes structures de l'univers à partir des fameux 300 000 ans jusqu'à maintenant. Alors, c'est un peu moins compliqué qu'il n'y paraît d'abord. C'est-à-dire qu'ils ont pris une dizaine de milliards de particules. Ces particules sont placées dans un univers en expansion. Alors, on prend des univers différents. Ça permet justement de tester dans quel univers on est. Ce que je vais vous montrer va être avec cet univers-là, 64% d'énergie noire, 22% de matière noire, et puis le reste en baryon, les fameux 4%. Mais on peut en tester d'autres. On fait évoluer ces particules sous l'action de l'expansion, ce qui est facile, sous l'action de la gravité, ce qui est facile. Le seul problème, c'est que faire évoluer sous la gravité, ça demande une quantité de calcul absolument prodigieuse. Et donc, toute la difficulté a été d'arriver à l'accélérer et d'avoir accès au plus grand superordinateur. Les deux. Trouver des moyens d'accélérer énormément et avoir accès à des superordinateurs. Alors, le résultat de la simulation est ici. Quand l'univers a 210 millions d'années, ben, on voit ces premières structures du corps noir cosmologique qui commencent à se développer. Un milliard d'années, ça continue, c'est déjà mieux. 4,7 milliards d'années, la Terre, le Soleil n'étaient pas encore formés. Ça, c'est l'âge de l'univers. Hein. L'univers a 4,7 milliards d'années, donc la Terre n'est pas encore faite. Et puis maintenant, 13,6 milliards d'années, on voit cette structure filamentaire extrêmement complexe. Et donc ici, un super amas de galaxies, ici un autre, et on voit une structure en bulle de savon ici, avec des trous, c'est-à-dire des endroits où il y a très peu de galaxies, et des endroits où il y en a plus. Et nous, on serait par là, quoi. Puisque nous sommes dans un endroit qui est en gros en bordure d'un super amas. Et cette structure, il se trouve que c'est justement celle qui existe. Alors ce que vous avez ici, c'est le relevé fait par un groupe entre Australie et Royaume-Uni au télescope de 4 mètres de l'Anglo-Australian Telescope en Australie. Donc ils ont fait les spectres, donc obtenu la distance de 221 000 galaxies. Et ici, je vous en présente seulement 31 000. Donc une coupe du ciel, à peu près 60 degrés ici, une coupe sur le ciel. Nous sommes ici. Donc la distance va en croissant ici. Hein, et vous voyez que nous avons une structure qui est extrêmement semblable à la structure qui est simulée. En fait, la structure simulée est là, la structure observée est là. Évidemment, il n'y a pas une correspondance parce que vous avez une simulation avec toutes les possibilités. Mais la structure statistique est très précisément la même. Alors, en somme, voilà, on est parti de fluctuations faibles dans le corps noir cosmologique. On est arrivé provisoirement. Oui, provisoirement. Mais enfin, on est arrivé finalement actuellement à la structure extrêmement détaillée que nous voyons. Donc, en fait, voilà, on sait tout. L'univers est plat. Il y a 74% d'énergie noire, 22% de matière noire, 4% de baryon. On connaît absolument tout. On a tout appris. Alors, le problème, c'est que si on a tout appris, on n'a rien compris. Très rapidement, là, on pourrait se dire au moins ça, au moins on a ça. Alors, en fait, c'est même pas si évident, mais là, je passe très vite, d'autant plus que ça ne concerne guère les astrophysiciens. Dans cet univers qui s'est créé, a priori, la matière, des quantités de matière et d'antimatière égales devaient naître, elles devaient s'annihiler, et donc ces baryons, cette matière ordinaire, ne devraient pas exister, en fait. Ça, c'est les physiciens nucléaires qui s'en occupent. Ils ont des pistes et ils espèrent bien, d'ailleurs, faire une démonstration dans quelques années avec le Large Hadron Collider, de montrer que la physique a effectivement une préférence, une faible préférence, mais une préférence suffisante pour que sur 1 million de baryons et d'antibaryons, il y en ait 1 sur 1 million qui se soit conservé. Parce qu'en fait, il suffit de ça. Mais ça, c'est en dehors de l'astrophysique. La matière noire, on ne sait pas ce que c'est. Nos amis physiciens nucléaires ont des idées, ils en ont même trop, je veux dire, ils en ont beaucoup, mais là, on peut espérer aussi qu'on apprendra plus. Et quant à l'énergie noire, oui, ça rentre dans un concept de la physique actuelle, mais quand actuellement nos amis physiciens essayent d'estimer à quoi elle doit être égale, ils obtiennent comme résultat que ça peut être zéro exactement. S'il y a une, je parle leur jargon là, s'il y a une symétrie cachée de la nature qui impose que ça soit zéro, mais sinon l'énergie noire a une valeur naturelle qui se trouve être 10 puissance 120 fois trop grande. 1 suivi de 120 zéros. Si l'énergie noire avait cette valeur, notre univers n'aurait même pas eu une seconde de vie avant de retomber. Donc, c'est sûrement pas le cas. Ou si elle avait une valeur inverse, dans la première seconde, toute matière se serait tellement écartée de l'autre qu'il n'y aurait jamais deux atomes qui se rencontreraient. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. C'est un des problèmes maintenant considérables de la physique théorique. Pour l'instant, on ne comprend pas ce que c'est. Alors, et maintenant ? Je vous flash très rapidement quelques-unes des pistes actuelles pour comprendre, puisqu'on a beaucoup appris, mais on n'a rien compris. L'une, c'est qu'en fait, tout ça, toutes ces histoires, les fluctuations quantiques primordiales, l'inflation, etc., c'est bien joli, mais ça serait bien d'avoir des observables. Alors, on pourrait penser qu'il n'y en a pas. Alors, en fait, si. Il semblerait que, suivant les différents modèles actuellement extrêmement théoriques de la période d'inflation, les différents modèles produisent des ondes gravitationnelles qui sont extrêmement différentes. Et ces ondes gravitationnelles, elles sont là. Enfin, je veux dire, elles disparaissent pas. Elles ont un malheur, elles sont extraordinairement faibles. Tellement faibles que les observer directement, peut-être 2040, 2050, 2060. Indirectement, peut-être. Ce fameux corps noir cosmologique ici a un intérêt, c'est que, il doit y avoir une polarisation extraordinairement faible, qu'on appelle un mode B, et qui est directement due aux ondes gravitationnelles. Le satellite Planck qui va être lancé l'an prochain ou dans 2 ans devrait permettre de faire les premières mesures, peut-être pas assez précises. Donc, le reste sera peut-être pas à suite. Et puis, la matière noire, ça se présente, on l'espère mieux. Le grand collisionneur au CERN qui entre en service actuellement a une bonne chance d'en faire, une chance, mais pas une chance de 100%. Et d'autre part, dans des laboratoires souterrains comme celui-ci sous le Mont Blanc, vous avez des détecteurs de matière noire de plus en plus gros, de plus en plus puissants qui sont mis en œuvre. Donc, on peut espérer. Mais simplement espérer que dans les années qui viennent, la matière noire sera identifiée, ou pas. Et puis, l'évolution de l'énergie noire, pour l'instant, c'est encore une affaire d'astrophysique. On ne voit pas très bien comment la physique, les collisionneurs pourraient détecter quoi que ce soit. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous essayons de construire un télescope de très grande dimension. Un ELT, Extremely Large Telescope, avec un projet de télescope de 42 mètres. C'est aussi pour cela, de façon à suivre l'évolution de l'énergie noire en observant des milliers de supernovae. Et puis, il faudra sans doute des satellites, et voilà deux des projets. Un projet un projet français à droite et un projet italien à gauche, tous deux projets de l'Agence spatiale européenne, qui ont été sélectionnés pour des pré-études et qui devraient permettre, en mesurant la forme et la vitesse de près de 1 milliard de galaxies, et observer l'évolution de l'énergie noire. Une vue directe de l'âge des ténèbres, on peut l'espérer, avec un grand interféromètre radio qui est en projet. Et puis, ma foi, si les théoriciens pouvaient comprendre la gravitation, eh bien, ça pourrait bien aider, ou même tout changer, parce qu'en fait, cette énergie noire, cette matière noire, tout ça, on l'observe par le fait que c'est noir. On l'observe uniquement par la gravitation. Donc si on se trompe complètement sur la nature physique de la gravitation, et actuellement, il n'y a pas de théorie physique de la gravitation, eh bien, il se pourrait même que ça apparaisse comme des artefacts de calcul, et hop, la matière noire et l'énergie noire disparaissent. C'est même possible. Comme j'ai peu de temps, alors on passe au trou noir. Alors, on sait donc que toute masse courbe l'espace-temps Einstein est suffisamment concentrée, au moins dans la connaissance actuelle de la gravitation d'ailleurs, il le crève. On appelle ça un trou noir. Un trou noir supermassif, c'est du jargon astronome pour dire que c'est un trou noir qui est beaucoup plus lourd qu'une étoile. L'endroit naturel pour les trouver, c'est les centres des galaxies. Vous savez, les galaxies sont un petit peu ce qu'était la Terre pour les Grecs anciens. Les Grecs, Aristote, si vous voulez, considérait que la Terre était un centre de l'univers, et que c'était en conséquence l'endroit où toutes les pollutions arrivaient. C'était pas une notion que les terriens occupaient une place privilégiée. En fait, c'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on était à l'endroit le plus sale, l'endroit où il y a des trucs qui vous tombent sur la tête et où tout est pollué. Alors, bon, ce n'est pas vraiment le cas sur la Terre. Enfin, vous remarquez, ça se discute. Mais c'est certainement le cas sur les galaxies. Et effectivement, toute la pollution galactique a tendance à se réunir là. Et on se retrouve au centre dans des conditions idéales pour avoir la formation d'un trou noir de plusieurs millions ou dizaines de millions ou centaines de millions ou milliards de masses solaires. Notre galaxie, si on la voyait, si on était au-dessus, on verrait ça. Comme on est juste dans le plan, on voit ça. Ça, c'est une image de notre galaxie. L'autre était une autre. Hein. Donc, on est là, par devant, exactement. C'est là où vous êtes. Et puis, le centre de notre galaxie, ben, il est par là. Il est par là. Et pour voir ce qui se passe et voir s'il y a un trou noir, ben, il faut voir très bien. Alors, pour voir très bien, il faut regarder en infrarouge, aux environs de 2 microns de longueur d'onde, au moins. Parce qu'il y a beaucoup de nuages de poussière devant et qu'en infrarouge, on passe à travers un nuage. Et puis, comme il faut voir dans un endroit où il y a une quantité d'étoiles absolument effrayante, eh ben, il faut supprimer la turbulence atmosphérique. Alors, on peut le faire en allant dans l'espace. Et effectivement, le télescope de Hubble a une caméra infrarouge. On peut le faire au sol. Et vous avez ici une image du VLT, donc de l'ESO, l'un des quatre télescopes de 8 mètres, avec un instrument qui est ici, qui a été construit par une équipe française d'ailleurs, franco-allemande, et qui est un instrument d'optique adaptative en bleu, qui est couplé avec une caméra infrarouge, l'optique adaptative supprimant la turbulence. Alors ça donne ça, voilà une image du centre galactique par Hubble, voilà une image avec un télescope de 8 mètres, elle est encore meilleure d'ailleurs, parce que le télescope est plus grand. Hein. Et à partir de là, alors voilà un résultat. Alors, ce que vous allez voir ici, c'est un film. Ce n'est pas un film fait avec des images, c'est un dessin animé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une série d'images pendant 15 ans, à peu près, en commençant en 1992, d'images extrêmement précises du centre galactique. La position de chaque étoile a été mesurée et a été reportée sous forme de ces dessins. Donc c'est bien un résultat, c'est pas une invention, mais c'est un petit dessin animé. Donc vous voyez des étoiles qui tournent autour du centre galactique. Leur mouvement mesuré sur le ciel alors que les années s'écoulent. Et donc vous voyez les trajectoires. Donc voilà, la vue à grande échelle ici, le temps est en train de s'écouler là. Hein, 1992-2005, 13 ans. Et puis on regarde vue de près, le centre galactique est ici. Cette étoile tourne autour, c'est et celle-là a accéléré ici. Alors, si vous regardez bien, les trajectoires ici sont des ellipses. C'est la seconde loi de Kepler. Vous avez vu la trajectoire accélérée en passant à côté. Elle accélère suivant la loi des airs, c'est la première loi de Kepler. Et si vous regardez les temps de révolution et les demi-axes des orbites, les cubes sont comme les carrés, c'est la troisième loi de Kepler. Donc en fait, on a une magnifique démonstration des trois lois de Kepler dans l'espace, à la distance du centre galactique. Alors en fait, comment est-ce qu'on sait que c'est le centre galactique ? Ben parce qu'en fait, il y a une source radio, une source X aussi, qui a pu être mesurée avec une très grande précision, donc qui a été marquée ici sous la forme d'une croix, et c'est bien, par rapport à cet objet, correspond extrêmement bien au foyer des ellipses en question. Donc on est sûr que ce sont des objets qui tournent autour du centre galactique. Alors, l'image qui est là, donc c'est un petit film ici. C'est un film qui ne dure qu'une heure et demie, enfin dans la réalité, qui a été fait donc avec la caméra en question, en faisant une image toutes les 5 minutes. J'ai eu la chance d'être là parce qu'en fait, ça a été la découverte que la première découverte optique, enfin à 2 microns de longueur d'onde, où le centre galactique qui va être là, indiqué par une flèche, s'est brusquement allumé. Ce qu'il fait, on le sait maintenant, une fois toutes les 24 heures. Donc, c'était au bon moment. Et donc, si tout se passe bien, vous allez voir le petit film. Voilà, le petit film est répété plusieurs fois. Hein. Donc, vous voyez, le centre galactique ici a eu la bonne idée de s'allumer. Alors, si ça veut bien s'arrêter, oui. Alors là, le fait que les trajectoires soient des ellipses très précises donne deux choses. La première, c'est que la masse en question est de 4,6 millions de masses solaires. Et que cette masse est forcément concentrée. Si ici vous aviez une masse sur un très grand diamètre, là, sur un diamètre sensible, les ellipses, les trajectoires auraient été différentes. Alors, en faisant l'analyse, on s'aperçoit que la masse est en fait concentrée dans quelque chose comme un jour-lumière au plus. Ça peut être zéro, mais c'est au plus un jour-lumière, ce qui veut dire que c'est en gros 3-4 fois le diamètre du système solaire. Par contre, là, eh bien, à partir du moment où on voit des fluctuations sur une vingtaine de minutes, ça veut dire que la zone concernée ne peut pas faire plus de 20 minutes lumière, ce qui est nettement plus petit qu'un jour. Et il faut le comparer avec ce qu'on prévoit comme horizon du trou noir, c'est-à-dire l'endroit où l'espace se déchire, et qui est 46 secondes. Donc vous voyez, on n'y est pas encore, 20 minutes 46 secondes, mais on a commencé à s'approcher. Alors, en gros, ben voilà de quoi il s'agit. Hein. Un objet de ce type-là, donc le trou noir ici au centre, un disque d'accrétion, c'est-à-dire que toutes les saloperies, en fait, l'hydrogène, etc., qui se trouve à proximité, tournent là à toute allure. Et puis, de temps en temps, vous avez un blob, un bout qui plonge à l'intérieur du trou noir et qui émet un grand cri avant de mourir. Et c'est ce grand cri qui correspond à la petite émission que vous avez vue. Alors, le problème, c'est comment est-ce qu'on pourrait, dans les 10-20 prochaines années, aller jusqu'à l'horizon et voir que c'est réellement un trou noir. Parce qu'en fait, bon, il y a en fait quelques autres possibilités, plus ou moins bizarres. En fait, toutes les autres possibilités sont encore plus bizarres qu'un trou noir, mais néanmoins, il faudrait se rapprocher encore. Une solution, c'est d'utiliser un interféromètre. Enfin, à peu près la seule solution qu'on voit, c'est d'utiliser un interféromètre infrarouge ou radio. Voilà très rapidement ce qui se prépare actuellement à l'ESO, mais il y a des observations radio qui pourraient très bien trouver le résultat avant. Donc voilà le VLT, qui a la particularité que les 4 télescopes qui sont ici peuvent agir non seulement séparément, mais aussi comme un interféromètre. Un interféromètre, ça veut dire quoi ? Eh bien, si vous prenez 2 télescopes, ils regardent le même objet, donc la lumière arrive sous la forme d'une onde plane. Chaque télescope prend la lumière part à travers tous ces trucs, et finalement, les 2 faisceaux se rencontrent ici. La difficulté est assez considérable, la difficulté technique, parce que pour obtenir des interférences, il faut que les 180 mètres à peu près, vous avez 180 mètres entre les 2 faisceaux, là, hein, il faut que les 180 mètres à partir de 180 mètres, les deux faisceaux se rencontrent en ayant parcouru la même distance, à un micron près, et sur une surface de 1 micron carré. Autrement dit, si vous préférez, vous avez deux faisceaux de 8 mètres de diamètre au départ, et il faut qu'à 180 mètres de distance, ils se retrouvent tous les deux dans un micron au cube. Donc, je passe sur les difficultés techniques, qui ne sont pas rien. Alors, à partir du moment où on fait ça, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on obtient l'image d'une étoile, en prenant cette fois une étoile qui est suffisamment loin pour qu'on ne voit pas son diamètre, parce qu'on risque de voir son diamètre. Donc, une étoile qui sera encore ponctuelle, eh bien, elle va donner une image assez dégoûtante, là où vous avez un tas d'artefacts là autour, mais néanmoins, la plus grande partie de la lumière se trouve là, dans quelque chose qui fait 2 × 4 millièmes d'arc-seconde. Et donc, c'est tout l'avantage de cette technique, qui permet donc d'aller beaucoup plus près. Alors, effectivement, il y a actuellement le projet d'un instrument pour cet interféromètre pour aller plus loin. Alors, donc, ici, le rappel, à partir d'imagerie directe et optique adaptative, voilà le genre de trajectoire qu'on voit des étoiles, et on a une précision qui est de l'ordre du millième d'arc-seconde. En rajoutant l'interférométrie, en faisant des mesures différentielles, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à avoir, comme ici, la trajectoire exacte de chaque étoile, on cherche à avoir la différence de trajectoire entre une étoile qui va passer extrêmement près du centre galactique et une étoile de fond qui, elle, ne bouge pratiquement pas et qui se trouve, par exemple, ici. Donc, c'est cette différence que l'on va mesurer. Et on peut mesurer des différences beaucoup plus précisément. Donc, avec cet instrument qui est actuellement en phase d'étude, donc qui est étudié par une combinaison entre le Max Planck Institute für Extraterrestrial Physique à Garching, le LESIA Observatoire de Paris à Paris et l'Université de Cologne. On espère que vers 2013, 14, 15, il sera possible d'observer ce genre de trajectoire pour une étoile qui passera suffisamment près du centre galactique avec des courbes comme ceci, qui manifestent des vitesses apparentes de l'ordre de la moitié de la vitesse de la lumière. Les exoplanètes. En fait, j'ai appris que vous avez eu déjà beaucoup de présentations sur les exoplanètes, donc je vais passer vite quand même. Vous connaissez tous notre système solaire, un endroit bien douillet. La chasse aux exoplanètes, les premières exoplanètes, je passe sur les toutes deux premières qui étaient en fait des restes autour de pulsars. La première exoplanète autour d'une étoile normale, si vous voulez, et non pas d'une étoile morte, sont mesurées par variation Doppler. Donc, ce qu'on appelle une vitesse radiale. Donc, c'est la même méthode que celle qui nous a coûté à tous déjà très cher, très exactement en fait, mais évidemment, il faut que nous soyons encore plus précis. Donc, en fait, techniquement, ça veut dire que sur un CCD en général, c'est-à-dire le genre de détecteur qui est à l'intérieur de tous les caméscopes et les appareils photo numériques, donc une petite plaque de silicium avec une dizaine de millions de pixels, eh bien, on a un spectre qui est là, ce spectre d'une étoile, ce spectre a des raies caractéristiques, et quand la planète tire derrière, le spectre est là, quand il tire devant, le spectre est là, derrière, devant, et on mesure cette petite différence. À part que la différence n'a rien à voir avec celle que je vous présente ici, et vous allez voir qu'en fait, on cherche actuellement à faire des appareils où on arriverait à mesurer un mouvement ici qui soit de l'ordre de grandeur de la taille d'un seul atome de silicium. L'instrument le plus précis dans le monde actuellement est ARPS, qui a été fait par une équipe qui rassemblait l'Observatoire de Haute-Provence en France, l'Observatoire de Genève et l'ESO. C'est un instrument qui est extrêmement précis parce qu'il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucune intervention humaine. L'instrument lui-même, que vous voyez ici, est ultra stable. Il est maintenu dans le vide à une température constante, absolue, constante, au 10 millième de degré sur la durée de vie. C'est plus compliqué, donc j'en parlerai pas. Il est alimenté par des fibres optiques qui brouillent, de façon à ce que cette image du ciel qui arrive, qui bouge de tous les côtés, soit transformée en un éclairement stable. Et puis avec un étalonnage simultané qui est fait en permanence, en même temps que la mesure de l'étoile. Et c'est ce qui a permis d'obtenir de très beaux résultats, comme ce système. Donc, c'est des oscillations de vitesse radiale ici, que vous voyez, et qui, dont l'amplitude ici est exprimée en mètres par seconde. Donc, vous voyez une précision de chaque mesure qui est de l'ordre de 1 mètre par seconde. Correspondant à ce système de trois planètes ayant 15 fois la masse de la Terre et où la plus éloignée du son soleil est à 0,7 unités astronomiques et se trouve d'ailleurs à une température qui doit être relativement agréable. La précision actuelle est de l'ordre de 1 mètre par seconde et peut être maintenue sur quelque chose comme 10 ans. Ça veut dire que potentiellement cet instrument est donc capable de découvrir l'équivalent de Saturne. Mais pour trouver des exotères, il faut passer de 1 mètre seconde à 1 cm par seconde. Alors, où est-ce qu'on en est des planètes en question? Là, il faut que j'accélère quand même. Donc, voilà très rapidement un diagramme où se trouvent les 250 des 270 planètes qui ont été détectées jusqu'à présent. Donc, toutes détectées par vitesse radiale ici. Donc, ce que vous avez ici, c'est la distance en unité astronomique. Une unité astronomique ici, donc par définition, la Terre est là-dessus. Et puis les masses sont en masse de Jupiter, donc par définition, Jupiter est là-dessus. En fait, on peut voir Jupiter, qui est là, et donc on s'aperçoit que Jupiter serait détecté. On serait capable actuellement, tout juste, hein, on voit que c'est en bordure du diagramme. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a rien qui soit à gauche, là? Ben, c'est parce qu'en fait, plus près, l'étoile serait la planète serait à l'intérieur de son soleil. Ici, ben c'est parce que ici la période de tournée est de 30 ans, donc une planète qui est beaucoup plus loin par là, ben en fait on aurait vu un tel petit bout d'orbite qu'on n'aurait pas été capable de détecter la variation. Alors donc ici, on a vu des planètes assez étonnantes, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de planètes ici qui ont des masses qui sont de l'ordre de grandeur de Jupiter, plus grandes ou moins grandes, mais qui sont extrêmement près, qui sont 30 fois plus près de leur soleil que de la Terre. Et la première détectée, 51 Pegasi par Michel Mayor, était d'ailleurs juste à l'intérieur, là. Entre parenthèses, la partie haute, ben, c'est une question de définition. Je ne vais pas rentrer dans ce qui fait la différence entre une naine brune et une planète, d'autant plus qu'il n'y en a probablement pas et que c'est un continuum. Et donc, au-dessus, on a des étoiles par définition. On a eu assez de problèmes à déterminer ce que pouvait être une planète, hein, et si Pluton était une planète, c'est également tout aussi difficile de déterminer ce qui est une toute petite étoile et ce qui est une grosse planète. Cette limite-là, par contre, est intéressante, c'est la limite due à la précision. Donc, en fait, avec une précision de... Ça correspond ici avec une précision d'à peu près 3 mètres secondes. Donc ARP, c'est capable de faire mieux. Seulement, le problème, c'est qu'il faut avoir cette précision pendant plusieurs années avant d'obtenir une détection. Donc le diagramme va se remplir naturellement vers là. Et la Terre est là, en parenthèse. Donc on voit que la Terre, ce n'est pas facile. Alors, pour détecter des Terres par vitesse radiale, qu'est-ce qu'il faudrait? Il nous faudrait beaucoup de lumière, vraiment beaucoup de lumière. Et c'est une des raisons majeures de construire des télescopes de taille de plus en plus grande. Et vous avez ici le projet de LT européen de l'ESO, qui est un projet. Hein. Ça veut dire que c'est en phase d'étude, que les différents composants, les différents sous-ensembles sont en train d'être définis, mais qu'il n'y a pas de feu vert. Il n'y en aura pas, en tout cas, avant 2010, de feu vert pour la construction. Pour vous donner une échelle, cette étude, c'est officiellement 57 millions d'euros sur 3 ans. Ça se prolonge par en fait un certain nombre de programmes avec la Commission européenne et avec des financements supplémentaires des pays, qui fait qu'en 10 ans sur ce projet, on aura investi presque une cinquantaine de millions d'euros de plus. Et le coût global consolidé concernant le coût humain et l'opération sur 15 ans, c'est 1 milliard d'euros. Alors, bon, ben, pour détecter des terres, il faut avoir un ELT, il faut avoir une extrême stabilité, c'est-à-dire ARPS, mais en mieux. Je ne dirais pas comment on peut faire en mieux. Et il faut passer d'un étalonnage par des lampes, ce qui est le cas actuellement, à un étalonnage absolu. Alors, ça tombe bien. Le Max Planck Institute for Quantum Optics, à 50 mètres de chez nous, a développé cette technique depuis une vingtaine d'années. Ça s'appelle un peigne laser. Il a obtenu le prix Nobel, d'ailleurs, de physique, il y a 2 ans, pour ce développement. Et actuellement, nous avons un contrat, un assez gros contrat, pour adapter ce peigne laser pour les besoins de la mesure ultra précise, absolue des étoiles, sur des durées de 10 ans, 20 ans. Et puis, il faut aussi faire une caractérisation fine de l'étoile, parce que les étoiles, comme le Soleil, elles sont actives. Et cette activité, elle donne un signal qui brouille la présence aussi faible que la présence de la Terre. Plus ou moins 1 cm/s de précision, étant entendu que la Terre fait un tir et pousse son soleil de plus ou moins 3 cm/s en tout. Et puis les planètes, ben on aime bien en faire des images aussi. Hein. On aime bien en faire des images. Actuellement, sur les 270 planètes connues, c'est un compte qui date d'il y a 4 jours, parce que ça change tous les jours. Sur les 270 planètes connues, il y en a 4 qui ont été imagées, qui ont été trouvées et qui ont trouvées à partir d'une image. Sur ces 4, il y en a 2 de presque certainement fausses, une qui est douteuse et à la rigueur, celle-là qui est peut-être vraie, qui est due à une équipe française, d'ailleurs. Observant à l'ESO. Alors, en fait, ce qui se passe là, c'est qu'il y a la chance d'avoir une étoile qui est très faible. Cette étoile-là est extrêmement faible. C'est une naine brune qui est extrêmement faible. Et la planète est une grosse planète, 5 fois Jupiter. Elle est suffisamment loin pour sortir avec optique adaptative, bien entendu, pour sortir de son étoile. Et on peut considérer de façon assez certaine qu'elle est réelle. Je vous le dis quand même. En fait, il y a eu beaucoup d'annonces de la découverte d'une planète par imagerie. Et ça s'est très souvent révélé faux. Et un des critères, qui n'est pas un critère, une condition suffisante, mais qui est une condition nécessaire, c'est que cette étoile et cette planète, putative, quand on l'observe 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, ben, en fait, à cette distance-là, la planète n'a absolument pas tourné, donc on doit les trouver dans la même position l'une par rapport à l'autre. Et donc ici, cette planète a été suivie. Oui, j'ai pas eu le temps de le passer en français. Ce qui se passe tout simplement, c'est qu'on s'aperçoit que la séparation a suivi exactement la loi qui était prévue si c'est bien un système lié, bande. Par contre, si c'était en fait une étoile située plus loin, quelque part, qui n'avait aucun lien physique, voilà ce qui serait passé. Voilà comment ça aurait bougé. Visiblement, on n'est pas dans ce cas. Et là, c'est l'angle de position, même chose, lié, donc pas de variation de l'angle de position. Et si ça avait été, cet objet était un objet lointain, eh bien, à ce moment-là, on aurait été ici. Visiblement, au vu des barres d'erreur, il est clair que les deux systèmes sont liés et qu'on est presque sûrement, en présence d'une planète qui ressemble à ça, si on était à côté. Alors, on aimerait faire mieux, c'est-à-dire être capable d'en voir plus que peut-être une, être capable de voir l'équivalent de Jupiter, être capable même de voir l'équivalent de la Terre, mais comme vous voyez, c'est horriblement difficile. Jupiter sur Soleil, c'est 1 sur 1 million en luminosité, Terre sur Soleil, c'est 1 sur 10 milliards. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire une correction précise de la turbulence. La correction précise de la turbulence, c'est parce que l'étoile est concentrée, la lumière de l'étoile est concentrée, c'est-à-dire qu'au lieu de faire tout ça et même plus, elle est essentiellement concentrée par là, mais surtout parce que la planète, qui serait là, par exemple, elle passe d'un énorme blob, là, d'une énorme disque flou, à un tout petit point précis. Donc en fait, le gain en contraste, qui est un gain de l'ordre de 10 000, il est dû non pas tellement parce qu'on a concentré l'étoile, mais parce qu'on a concentré la planète. Et puis après, ben, il faut la supprimer, cette étoile centrale, parce qu'elle est trop forte, ça s'appelle de la coronographie. Ce n'est pas spécialement simple, mais on devrait pouvoir arriver à gagner un facteur 100 plus, c'est bien difficile. Et déjà 100, c'est très difficile. Et puis, l'arme finale, c'est de soustraire des images. Par exemple, bon, vous avez cette image là, pleine de saloperies, et puis vous avez quelque part une planète qui va être là, que vous ne voyez pas, et puis vous faites une seconde image, mais dans cette image, la planète a bougé parce qu'elle a tourné. Si c'est la Terre, elle tourne en l'équivalent de la Terre, elle tourne en 1 an, et à ce moment-là, elle se retrouve non plus ici, mais là. Et donc, en faisant une soustraction d'image, eh bien, on peut espérer gagner un facteur important. et obtenir finalement l'image d'un objet faible. Le calcul montre que si on considère des systèmes faisables ici, un télescope de 42 mètres, il faut arriver à faire une soustraction d'image à 1 sur 10 000 près pour voir la Terre. Donc c'est probablement impossible. Physiquement impossible, mais pratiquement impossible. Donc quelques Jupiter avec un 8 mètres, c'est un instrument qui est en fabrication à l'ESO. Il y a un instrument relativement semblable, enfin, avec pas mal de différences, qui est en construction à Gemini, donc États-Unis et Royaume-Uni. Et puis, nous étudions actuellement la possibilité de faire un instrument de ce type avec un ELT, avec l'espoir de détecter quelques super-terres. Une super-terre, ça serait une planète rocheuse qui ferait 4, 5 fois, 6 fois la taille de la Terre, avec une étoile peut-être un peu plus froide que le Soleil, de façon à avoir un meilleur contraste, etc. Et puis, il faut savoir que bientôt, il y aura des milliers de planètes connues par transit. Le transit, c'est observer que une planète, parce qu'elle passe, devant l'étoile et la lumière de l'étoile varie très légèrement. Il y a le satellite français Corot, qui actuellement en a détecté plusieurs d'ailleurs, mais avec Kepler, qui est un satellite américain, qui devrait être lancé dans quelques années, on espère en avoir quelques milliers par cette méthode, quelques centaines. Et puis, il y a la possibilité de mesurer avec le VLTI, l'interféromètre que je vous ai présenté, de mesurer quelques étoiles. Et puis, vers 2017, c'est un peu avant quand même, vers 2013-2015, avec Gaïa, qui est un projet, qui est un satellite fabriqué actuellement par l'Agence spatiale européenne, l'ESA, d'observer directement par les mouvements sur le ciel, en voyant l'image d'une étoile se déplacer très légèrement, dû à l'attraction et à la répulsion de sa planète, de détecter des centaines de milliers de planètes. Et y détecter de la vie, ça c'est un sacré problème, donc je ne vais pas l'analyser, je ne résiste pas quand même, vous me donnez encore 3 minutes. En fait, si on voyait la Terre de loin, est-ce qu'on pourrait y détecter de la vie? Alors, pour ça, il faut avoir un spectre de la Terre. Et assez curieusement, il y a encore quelques années, il se trouve qu'on n'avait aucun spectre de la Terre. Oui, évidemment, bon, les spectrographes sont avec un télescope qui pointe le ciel. Et en fait, il n'y avait pas eu tellement l'idée de faire un spectre global, j'entends, de la Terre. Des spectres de la Terre, il y en a énormément. Mais un spectre global de la Terre telle qu'elle serait vue, comme nous, quand nous voyons, autour d'une autre étoile. Et puis, il y a... C'est horrible parce que je me souviens plus qui a eu une idée géniale. Il se trouve, et c'est connu depuis plusieurs centaines d'années, la Lune a non seulement une face éclairée, un croissant éclairé, qui est dû au Soleil, bien sûr, mais aussi un reste sombre, mais qui est éclairé. C'est ce qu'on appelle la lumière cendrée. Et en fait, il y a plusieurs siècles qu'il a été compris que c'était la Terre qui éclairait la Lune. En fait, par le fait qu'à certaines époques, on voyait la lumière cendrée particulièrement forte, et était plus forte que d'habitude, il y a eu un géographe particulièrement astucieux qui a fait remarquer il y a 250 ans qu'il devait y avoir donc une zone qui réfléchissait et qu'il devrait y avoir un continent. Ça correspondait à peu près à la position de l'Australie. Donc, c'était pas mal. Alors bon, donc en mettant un spectrographe en 1/1000 de seconde avec un télescope quelconque, on obtient un spectre. Et ce spectre, voilà à quoi il ressemble. Donc on a cette chute énorme, donc la longueur d'onde augmente dans cette direction-là. On est en plein bleu ici, à la limite de l'ultraviolet ici. On est en infrarouge ici. Donc ce qu'on voit, en fait, c'est que ici c'est très bleu. Hein, on a cette... Ça, c'est dû au bleu de l'atmosphère. On voit une signature, mais qui n'est pas bien grande, due à l'oxygène. Et on voit aussi une signature qui est due à l'ozone. Le saut qui est ici, là, le saut qui est là, le fait que la lumière là est nettement plus faible que la lumière ici, est dû à la chlorophylle. Vous savez, la chlorophylle absorbe complètement le rayonnement solaire dans le visible, à part... 3% en vert, et c'est pour ça qu'elle réfléchit. 3% du vert, et c'est pour ça que nous voyons la végétation verte. Mais à 0,7 micron, l'énergie solaire n'est plus assez grande pour faire marcher la chlorophylle. Donc la chlorophylle ne s'est pas embêtée, évidemment, à absorber la lumière du soleil. Elle la réfléchit brutalement et complètement. Et c'est donc ce qui fait que si nos yeux voyaient un tout petit peu plus dans le rouge, d'ailleurs, la végétation serait toute rouge. Donc voilà, ça correspond à ça. Donc on peut même dire, à la rigueur, qu'on peut y voir la chlorophylle. Alors, observer ce genre de choses-là au sol, c'est pratiquement impossible parce que nous avons une atmosphère. Et que donc, on va y retrouver l'oxygène, l'ozone, l'eau, la chlorophylle, c'est vrai, mais etc. Donc, en fait, ce sont des observations spatiales, le James Webb Space Telescope, dans un futur nettement plus lointain, un interféromètre dans l'espace comme Darwin, qui est d'une difficulté absolument effroyable, d'ailleurs, qui ont une chance de pouvoir trouver de la vie. En conclusion, d'abord en excusant d'avoir été long, donc, de continuement depuis des milliers d'années, c'est une des occupations des humains que d'essayer aussi de percer l'environnement immédiat et de voir les rouages de l'univers. Qu'est-ce qui se cache derrière cet univers que nous voyons ? C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous continuons à faire, et j'espère vous avoir montré que cela montre un univers qui est d'un certain côté simple d'une façon fascinante et d'un autre côté extrêmement subtil, et qu'on peut certainement être en accord avec la phrase de Shakespeare. Merci beaucoup.
Vous venez d'entendre l'astrophysicien Guy Monnet. Il s'exprimait sur la composition de l'univers et des trous noirs lors d'une conférence donnée en janvier 2008 au Bureau des Longitudes à l'Institut de France. Nous vous invitons à poursuivre sur les questions d'astronomie avec les autres émissions de Canal Académie. Écoutez Tristan Guillot sur les exoplanètes, ainsi que Thérèse Encrenaz sur les 8 planètes du système solaire, également Françoise Combes, membre de l'Académie des sciences, sur le défi de la matière noire dans l'univers. Toutes ces émissions sont en libre accès dans la médiathèque de Canal Académie. Merci de votre écoute et à très vite pour de nouvelles émissions.